Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je me pose toujours la question pour savoir pourquoi. Moi, je me suis retrouvée là à 23 ans. J'étais ni engagée en politique, ni dans la politique. J'étais une simple hôtesse de l'air. Je ne sais pas, un beau jour, c'est arrivé comme ça. J'ai été arrêtée. Je me retrouve au camp Boiro, sans savoir pourquoi.
C'était il y a 40 ans, jour pour jour, en Guinée. Après avoir renversé le régime de Sékou Touré, l'armée libère les prisonniers des camps d'internement. Le pays découvre alors, effaré, les récits des victimes du système répressif mis en place sous la Première République. Aujourd'hui, ils sont une poignée de survivants. Camp Boiro, dans l'enfer du goulag tropical, c'est un grand reportage de Mathias Reynal.
Heures du matin dans une voiture en banlieue de Conakry.
J'ai le triste privilège d'être à la fois victime et enfant de victime parce que c'est ma mère qui a été incarcérée. J'ai partagé avec elle son incarcération jusqu'à l'âge de 6 ans.
Daniel Philippe de Sainte-Marie est né en 1971. Sa mère est alors en détention au camp Boiro. Ce centre d'internement est l'un des plus connus de l'archipel du goulag guinéen qui s'étend sous Sékou Touré, de la capitale à Kankan, dans l'est du pays.
La Guinée entame un nouveau chapitre de son histoire.
Le 3 avril 1984, un groupe de militaires vient de s'emparer du pouvoir. L'information est reprise à la télévision française.
Le premier geste des nouveaux dirigeants donne le ton, la libération des prisonniers politiques détenus dans le camp de Boiro. Ce lieu d'internement était, selon l'opposition, un véritable camp de concentration où sont morts des dizaines de détenus politiques. La torture y était autorisée, les conditions de vie horribles, plusieurs prisonniers y sont morts de faim. Le gouvernement se propose d'édifier à Boiro un monument à la mémoire des martyrs de l'injustice.
Les journalistes filment les prisonniers sidérés, hagards, le souffle coupé. Ils racontent pour la première fois ce qui leur est arrivé.
En un mot, je suis dépassé de joie. Mon nom, c'est Mamadi Bamba, gendarme, maréchal de logis, qui était au début de ce stage. Oui. On m'a arrêté pour avoir fait complot contre ce régime. Je suis au courant de rien, on n'a même pas interrogé.
Depuis 4 ans, je suis en prison. Oui. Puis le 16 juin 1980, j'ai été arrêté alors que j'étais venu pour dire bonjour à mes parents et pour me retremper dans mon pays d'origine, la République de Guinée.
Vous êtes venu d'où?
Je suis venu de Dakar, je suis fonctionnaire international et je travaille pour les Nations Unies.
J'ai fait 3 ans, j'ai été arrêté le 23 mars 1981.
Oui.
Pour la simple raison qu'un parent est passé la nuit chez moi.
40 ans après, le camp Boiro est resté une base militaire. Nous passons devant en voiture, côté passager derrière la vitre fumée, Daniel observe.
Je suis juste déçu parce que on a changé le nom, ils ont détruit beaucoup de choses. J'ai ce sentiment que l'État guinéen veut étouffer, en tout cas, s'en fout de l'histoire.
Les anciens bâtiments, les cellules notamment, ont été rasés il y a une quinzaine d'années au cours de la transition militaire dirigée par Moussa Dadis Camara puis Sékou Ba Konaté. Mais dans le sol subsistent des vestiges, selon Daniel.
Il y a un charnier là-bas encore. Moi, je n'ose même pas rentrer là-bas parce que je vais. Qui conserve le charnier là, qui permette aux gens d'aller se recueillir. C'est tout ce que nous voulons. Nous aspirons à une seule chose, c'est ça. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'à présent où leur papa, où leur maman est enterré. C'est douloureux. Ça fait mal. Si on dit on a la haine, c'est faux, on n'a pas de haine. On a de la colère et de l'amertume. Ma douleur, c'est surtout par rapport à ma mère. On a gâché sa vie, on a brisé sa vie.
Néné Diariou Kassé, c'est le nom de la mère de Daniel. Une femme charismatique et élégante qui a accepté l'interview. Mais ce sera sa dernière intervention dans les médias, prévient-elle, lassée de voir que rien n'a changé pour les survivants des camps d'internement en 40 ans, lassée de répéter inlassablement la même histoire. Mais quelle histoire !
me pose toujours la question pour savoir pourquoi. Moi, je me suis retrouvée là à 23 ans, dans cette galère. J'étais enceinte sans le savoir. Et c'est en prison que j'ai su que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que j'ai porté toute ma grossesse jusqu'à la naissance de mon fils.
Nous nous retrouvons dans le petit salon de cette grand-mère guinéenne. Quelques tableaux, des photos en noir et blanc accrochés au mur. Ce sont les seuls souvenirs qui ont résisté à une vie passée à l'étranger, loin de la Guinée. Elle n'a qu'un regret, aujourd'hui, ne pas avoir quitté son pays plus tôt. Dans les années 70, Néné Diariou Kassé travaille pour la compagnie publique Air Guinée. Elle est au contact des ministres et du chef de l'État.
J'étais une simple hôtesse de l'air qui assurait les vols présidentiels. Comme je parlais les trois langues du pays, et on m'a assigné à être l'hôtesse de l'air, l'hôtesse présidentielle en fait. Et c'est de là, je crois, que tout a commencé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Parce que je ne sais pas, un beau jour, c'est arrivé comme ça. J'ai été arrêtée. Je me retrouve au camp Boiro. On m'accusait d'être, étant hôtesse de l'air, d'être l'intermédiaire entre les anti-guinéens en France ou à l'étranger. Et que c'est moi qui véhiculais les nouvelles de la Guinée. Donc, on m'a traité d'espionne. Enfin, des histoires à dormir debout.
Néné a-t-elle vraiment tenté de déstabiliser le régime de Sékou Touré ? Sa principale préoccupation à l'époque, raconte-t-elle, c'est de faire du shopping. Quand elle est à Paris, elle s'amuse, profite de la vie et fréquente un Français depuis quelques mois. La raison de son arrestation est peut-être plus banale qu'il n'y paraît. Néné est une belle femme qu'un Guinéen haut placé convoite.
Bon, c'est une histoire vraiment très aberrante. Un ministre fait la cour, refuse les avances, je sais pas. Il y avait de la jalousie et tout, bon. Et surtout que, à l'époque, hein, c'est pas n'importe qui sortait avec un blanc ici. Il fallait être audacieux pour le faire. Tout ça, ça m'a coûté 7 ans de prison.
De 1971 à 1977, elle vit en détention avec son fils Daniel. Durant les 25 ans de pouvoir de Sékou Touré, son régime dénonce une multitude de complots. Si certains sont réels, d'autres sont totalement fabriqués. La révolution traque ses ennemis. Elle fait, au fil des années, plus de 50 000 morts et disparus, d'après les organisations de défense des droits humains. À l'intérieur du pays, on instaure une culture de la délation. En Guinée, tout le monde se méfie de tout le monde. Au sein même du pouvoir et de la famille de Sékou Touré, différentes factions sont en concurrence.
Mais c'était un système totalement
Mais c'était
absurde.
Un système arbitraire.
Non, surtout totalement absurde.
Absurde en plus.
Parce que c'était une rivalité entre les frères.
Entre les frères, les cousins, les responsables politiques, entre eux-mêmes. Il y avait une certaine rivalité. Si toi tu cherches à me protéger, l'autre ne veut pas. Il contrecarre.
On va parler d'un autre pays maintenant, la Guinée. Les militaires ont pris le pouvoir là-bas, ils ont promis de rendre la liberté au peuple et ils ont ouvert les prisons, dont le fameux camp Boiro, où sont morts tant d'opposants au régime. Et vous allez voir ce camp Boiro.
En novembre 84, la télévision française visite les geôles de Sékou Touré.
Lorsqu'on vous fait entrer à la 49, on ferme la porte, on met les cadenas. Même le chef de poste n'a pas le droit d'ouvrir. Sauf, bien sûr, quand vous êtes mort. Pas de nourriture, pas d'eau. Même l'air que vous respirez, si on avait les moyens, on l'aurait supprimé pour que vous mouriez beaucoup plus sûrement encore. Là que se trouvait la gégène qu'on tournait, ici. Ici, on le branchait au sein, aux oreilles et finalement au sexe. Même les femmes, même aux femmes, on le branchait au sexe.
À Boiro, Néné subit des mauvais traitements, la torture. Alors jusqu'à aujourd'hui, elle appelle Daniel son miracle.
Étant en prison sans savoir que j'étais enceinte, dans des conditions difficiles, j'ai fait une semaine de diète. Ça veut dire sans manger, sans boire, enfermée dans une cellule seule, couchée à même le sol. Si je dis c'est un miraculé, jusqu'à 7 mois, j'ai vécu comme ça en prison, 7 mois, 8 mois. On était une dizaine de femmes. On s'est toutes retrouvées sans voir nos règles. Donc on a pensé que c'était le stress, le choc et tout. On a demandé à faire venir un médecin. Ils nous ont fait venir un médecin qui est venu, qui nous a auscultés. Et c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte que j'étais vraiment enceinte. Moi, dans tout ce processus, comme peut-être j'avais maigri, je n'avais pas de ventre, je n'ai pas senti ma grossesse, rien du tout. Pas de nausée, pas de... Non, je ne sais pas, aucune sensation. C'est seulement après l'auscultation qu'on m'a dit que j'étais enceinte et que j'avais les 7 mois et demi de grossesse. Je me suis posé la question, tout le monde s'est posé la question, mais comment ça se fait-il? Il est tombé du ciel ou quoi? On a commencé à dire que oh, peut-être c'est le capitaine qui venait tous les soirs me voir, ou c'est les militaires, ou c'est ceci, cela et tout. C'est comme ça que j'ai passé ma grossesse dans le doute. Moi-même, j'avais des doutes, je me posais des multiples questions sans savoir. Parce que quand tu es dans ces telles conditions, tu te poses la question et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. S'il n'était pas né blanc, peut-être on aurait dit que j'ai chopé la grossesse en prison. Quand il est né maintenant, métisse, qu'on a compris que non, que j'étais arrivée avec ma grossesse.
Crâne rasé et peau caramel, Daniel aime faire des blagues. Mais derrière ses lunettes aux verres épais, son regard est triste. Il est le fils de Philippe de Sainte-Marie, un Français qui fut le directeur régional d'un grand groupe pétrolier. Après son arrestation, Néné n'a plus jamais revu l'homme qu'elle aimait.
Il a dit, bon, comme c'est comme ça, et on a commencé à arrêter les gens. Lui, il a demandé d'aller à Abidjan, pensant que peut-être l'arrestation, c'est juste pour 1 mois, 2 mois, et que peut-être en étant à Abidjan, à ma sortie, peut-être, ça serait facile pour moi de le rejoindre. Mais malheureusement, ça a duré 7 ans, et d'ici là, il était mort entre-temps. Il a eu un accident à Abidjan.
Le Camboireau a privé Daniel de son père. Il lui a volé aussi son enfance.
La première fois qu'on a voulu sortir d'Annie, on l'a mis, il n'avait jamais vu le soleil. Il est sorti dehors, le soleil l'a tapé, il a crié. Il a voulu fuir pour entrer dans la cellule, on l'a repoussé au dehors. On a dit non, reste dehors, tu en as besoin, reste. Il pleurait. Donc il est sorti, il est resté au soleil. Mon fils, il a failli mourir. Il a eu un coup de soleil terrible. Il est devenu rouge comme son polo là. On a imbibé les serviettes. On l'a enroulé dedans. Après, il a commencé à appeler. Il a grandi avec des femmes âgées, avec nous, des hommes âgés, des prisonniers. Ils se sont dévoués pour lui et tout, parce que le matin, on le sortait comme s'il allait à l'école. On lui donnait une ardoise, une craie, on disait d'aller dans la cellule des hommes. Donc pour lui, il allait à l'école. Mais avec les hommes, avec les grands, les prisonniers. Pas avec des enfants. Il a une enfance particulière. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a très, très, très joué sur lui. Je suis la seule à le canaliser. Il s'est marié, il a 2 enfants. Mais ça a joué sur lui, il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre.
Daniel est un personnage aux multiples facettes. Il a des comportements autodestructeurs d'adulte, mais sous des airs enfantins.
Aujourd'hui, je deviens, comme dit ma mère souvent, parce que maintenant je porte des jeans déchirés et tout, elle dit, oui, toi, tu as 50 et quelques ans, et tu veux redevenir... J'ai dit, oui, j'ai envie.
De redevenir un enfant.
Voilà, quelque part, parce que je ne sais pas, je veux devenir hip-hop, mais ce n'est pas de manière banale, quoi. Ce n'est pas de manière stupide. Parce que je suis marié, ça fait 15 ans et tout, et puis là, je veux refaire ma vie encore. Mais je sais ce que ma mère a souffert. En fait, moi, je me présente toujours comme une victime collatérale. Je suis un miracle. J'aurais pu mourir, je ne sais pas, moi. J'aurais pu ne jamais exister. Elle a souffert plus que moi parce qu'on a brisé sa vie. Moi, ma vie n'est pas brisée. Ma vie est traumatisée, c'est différent. Elle, sa vie a été brisée. Ce à quoi on aspire, c'est la réparation.
Tiens.
C'est une réhabilitation. Combien de personnes ici ont été maltraitées, piétinées, détruites, qui ont donné leur vie pour ce pays? Et les jeunes générations, eux, ils ne comprennent rien. Ils sont là. Ils vivent dans un néo-panafricanisme stupide. Mais on a falsifié l'histoire. Et on continue à alimenter cette falsification. Sékou Touré fait partie de notre histoire, c'est incontestable. Mais on peut. Mais ce qu'il a fait du mal.
Un an après la chute du régime de Sékou Touré, en 1985, une équipe de journalistes français se rend à Conakry.
De l'ancien régime, seule une cinquantaine de dignitaires sont en prison en attendant leur jugement. Là aussi, le nouveau gouvernement veut faire table rase.
Lansana Conté, le président de la transition, accepte de répondre à une interview.
Nous n'avons pas mis les gens en prison pour un problème politique, parce que ce qu'ils ont fait, c'est passé. Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça, c'est clair.
Le colonel Lansana Conté aura bien du mal à tout faire oublier, en particulier le fameux camp Boiro.
Arrivé et j'ai vu qu'au camp Boiro, il n'y avait aucun changement, il n'y avait pas de mémorial, rien du tout. J'ai dit non, c'est pas normal, il faudrait quand même qu'on installe quelque chose, qu'on dise ce qui s'est réellement passé ici. Mais ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé, rien de concret. L'enfant qui est né à Boiro, il a aujourd'hui 52 ans. Quel changement il y a eu dans sa vie? Quel changement il y a eu dans la mienne? Dans quelques mois, j'aurai 76 ans. J'ai passé toute ma jeunesse en prison. Pourquoi tout le temps répéter la même chose? Pourquoi inlassablement? Pourquoi? C'est toujours la même rengaine. Mais finalement, ça lasse, ça me fatigue. Je crois que ça va être la dernière fois cette fois-ci. Je n'interviendrai plus.
Pourquoi vous avez accepté quand même cette interview?
Pourquoi j'ai accepté cette interview?
Est-ce que c'est parce que les survivants sont de moins en moins nombreux?
Oui. Oui. Ils sont moins nombreux. Beaucoup sont morts. Moi, aujourd'hui, le 19 mai, je fêterai mes 76 ans. Et combien de temps me reste-t-il à vivre? Dieu seul le sait.
Une réhabilitation avant que les dernières victimes ne disparaissent, voilà ce que réclament aujourd'hui Daniel et sa mère. 40 ans après la libération des prisonniers de Sékou Touré, certains Guinéens continuent de les considérer comme des traîtres.
Camp Boiro, dans l'enfer du goulag tropical, un grand reportage de Mathias Reynal, réalisation Tiffany Menta.